12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Nous débattons ce midi de deux spectacles de danse dont l'amour est la thématique centrale et qui se jouent tous les deux. Et bien l'un en face de l'autre sur la même place du Châtelet à Paris. Le premier est un ballet signé du chorégraphe britannique Matthew Bourne qui s'inspire très librement de Roméo et Juliette, sans Shakespeare mais avec Prokofiev. Le second est une performance seule en scène. L'artiste d'origine argentine Marina Otero tente un coup de poker sans intrigue, sans artifice, sans filet. Cela s'appelle « Love Me ». Aime-moi.
Et on en parle avec vous, Marie-Josée Sirac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, critique à l'humanité et présidente du syndicat de la critique dramatique. Et on en parle avec vous, Marie Sorvier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de I.O. et productrice de la chronique Le Grand Tour sur France Culture tous les jours à 19h50. Bienvenue à toutes les deux dans les Midi de Culture.
Et nous commençons donc ce débat critique avec Roméo plus Juliette du chorégraphe Matthew Bourne. La tournée mondiale s'arrête jusqu'au 28 mars au Théâtre du Châtelet à Paris. Alors qu'elle a bien évidemment reconnu la danse des chevaliers de Sergueï Prokofiev, la dame assise à côté de moi au Théâtre du Châtelet durant l'entracte s'interroge. Mais où sont passés les Montaigu et les Capulet? Eh bien clairement, ils ne sont pas là. De Roméo et Juliette, le chorégraphe britannique Matthew Bourne ne reprend pas grand-chose, si ce n'est l'histoire d'amour, la passion et un soupçon de tragédie. Ce ballet se passe dans le Verona Institute, écrit en lettres géantes sur le haut du grillage blanc qui forme un arc de cercle du devant au fond de la scène. Sommes-nous dans une prison, un hôpital psychiatrique, une maison de redressement, un internat? Personne ne nous donne la réponse, c'est au spectateur de choisir. Pourtant, un surveillant est là, il est le gardien de la discipline, mais quand il s'absente, les duos amoureux et de danse s'enflamment et cette jeunesse enfermée en profite pour vivre leur passion. C'est dans ces deux groupes de filles et de garçons que l'on découvre alors Roméo et Juliette qui tombent sous le charme l'un de l'autre, sous une boule à facettes lors d'un bal, une boum organisée par la femme pasteur qui incarne le frère Laurent des origines. Marie Sorbier, avez-vous été emportée par cette jeunesse ?
Je suis un peu mitigée. Alors, on est forcé de reconnaître que il y a une efficacité de l'ensemble. C'est-à-dire que Matthew Bourne, il sait faire... Alors, vous avez dit ballet. Lui préfère le terme de comédie musicale sans parole, hein, toute une histoire de mots. Mais il y a quand même, en effet, ce côté comédie musicale. C'est-à-dire que c'est extrêmement efficace. Les scènes vont vite, c'est ultra rythmé. Et Matthew Bourne, il a ce truc de danse très signifiante. C'est-à-dire que chaque geste des danseurs fait avancer l'intrigue. On comprend exactement ce qui se passe, même si vous n'avez jamais rien vu de danse de votre vie. Vous suivez l'histoire parfaitement. Donc c'est accessible à tous. C'est vraiment un spectacle, un grand spectacle, grand public. Ça, on met plein les yeux. Tout ça, c'est réussi. Moi, ce qui me rend un peu mitigée et ce qui m'a perdue complètement, en fait, c'est que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, retrouvé Shakespeare. Alors,
comme ma voisine.
Oui. Alors, en effet, les familles sont pas là, mais il y a plein d'éléments dramaturgiques qui n'y sont pas. Et le principe de Shakespeare, ce qui fait que c'est un des plus grands dramaturges du monde, c'est que c'est un millefeuille. Il y a toujours plein de trames narratives qui se rejoignent et qui créent le drame ou le rire. Là, le fait d'avoir tout réduit sur une histoire d'amour, alors certes, c'est beau, une histoire d'amour, mais on comprend plus pourquoi la tragédie advient. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai pas du tout senti venir. Et ce qui fait que je n'ai ressenti, mais alors, aucune émotion. Pourtant, on en a vu des Roméo et Juliette. Il a été monté mille et une fois, que ce soit par des théâtreux ou en danse, enfin, sous toutes les formes artistiques qui soient. Ce qui reste, normalement, c'est le drame. On pleure à Roméo et Juliette. On est triste pour eux. Bah là, pas du tout. Ils sont très sympathiques, ces deux adolescents qui tombent amoureux et tout ça est très beau. Mais je n'ai pas compris ni les meurtres de l'ami et du surveillant, enfin de Tybalt et Mercutio qui sont voilà là adaptés, ni du coup leur mort à eux qui semble un peu tomber comme un cheveu sur une soupe. Donc sans émotion, bah je me suis un peu ennuyée.
Alors pas d'émotion. Est-ce que vous êtes d'accord, Marie-Josée Sirac, avec ce constat?
Plutôt. Je partage ce sentiment. Je suis sortie mitigée de ce spectacle. Matthew Bourne a sillonné dans le pays pour pour trouver ces danseurs. Et
c'est l'Angleterre.
Toute l'Angleterre. Et c'est vrai qu'ils sont tous très jeunes. Ils ont l'âge des protagonistes. Et ça, c'est très beau parce que tout d'un coup, ils dégagent une énergie, une audace. Et lui sait vraiment bien chorégraphier cet ensemble-là. Donc, il y a des moments très beaux, notamment les moments de danse collective avec les filles et les garçons qui se font face, qui dansent de manière mécanique, comme ces petites poupées enfermées dans des boîtes qui jaillissent comme poussées par un ressort et qui commencent à tourner de manière mécanique. Ça, c'est assez bien vu. Tous les moments, tout est bien, c'est vrai. C'est vraiment extrêmement précis. Il y a une énergie folle. Ça raconte l'enfermement. Parce que cet institut Vérona, c'est une prison. Une prison, ça pourrait être un pensionnat pour jeunes gens, parce que quand même, l'arrivée de Roméo, et là, il y a un moment très drôle, moi, je trouve, avec ses parents, qui sont des clones de la famille royale actuelle, on a l'impression que ça pourrait être le petit dernier, le petit Harry dont on se débarrasse au Canada. Là, on vient le mettre là, parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire de ce jeune garçon.
Ils arrivent effectivement en saluant la foule, la famille royale. Ils arrivent, ils rencontrent la directrice de cet institut, présentent le fils, et ce fils, donc, qui est Roméo, va être intégré tout en danse et en se faisant déshabiller par les autres garçons sur scène dans ce groupe de garçons.
Et c'est très drôle parce que Mathieu Bande se défend n'arrête pas de dire qu'il adore la famille, la monarchie.
Il a été anobli d'ailleurs.
En même temps, cette petite pique, bon, moi je l'ai vu une petite pique, mais c'est peut-être de l'humour britannique aussi. Tout le travail autour de l'enfermement, c'est très beau parce que ils se jettent sur les grilles de cet institut et comme des ils se projettent avec violence et ils sont enfermés. Il y a quelque chose qui dit de cette jeunesse qui est contrainte. Alors ils prennent des médicaments, on leur donne des médicaments. Donc il y a cette idée de camisole chimique qu'on leur
ils sont habillés tout de blanc aussi.
Ils sont habillés tout de blanc. Donc bon, et effectivement. On n'est pas bouleversé. Il n'y a pas d'émotion. Et là, c'est ça qui nous manque.
Alors la dame qui était à côté de moi, elle a eu quand même un peu d'émotion. C'était pas vous, Marie Sorbier. Pour revenir, il y a deux choses qui m'ont marqué. Ce que vous dites sur le théâtre, parce que Mathieu Bande, il a fait ce casting britannique, parce qu'il veut des danseurs britanniques, parce qu'il dit dans ce travail-là, il y a une formation théâtrale, quelque chose du jeu, ce qui me fait penser aux comédies musicales dont vous parliez il y a un instant, Marie Sorbier, et par exemple aussi à quelque chose de très West Side Story, de très grise en fait, dans cette transformation de Roméo et Juliette.
Oui, et très cinématographique aussi. On a vraiment des codes presque télé en fait. C'est entre les deux, donc c'est en ça que ça plaît beaucoup aux jeunes gens. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de.
C'est conseillé à partir de 14 ans, mais effectivement, il y avait des plus jeunes autour
de moi. Voilà, des lycéens ou des jeunes adultes qui s'y retrouvent complètement dans ce spectacle-là. Et en effet, il y a des codes, télévisuels, de rythme. Et puis, c'est ce que vous disiez, Marie-Josée, ce qui est en effet très beau, c'est qu'ils sont très jeunes. Alors, je ne sais pas quel âge ils ont en vrai, mais on a l'impression qu'ils sont à la fin de leur lycée ou au tout début de l'université, dans cette espèce d'environnement un peu enfermé. Et ça, le premier amour, c'est quand même toujours très beau à voir. Une chose quand même que j'ai aimé, moi, dans cette adaptation, c'est que si on oublie Shakespeare complètement, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait porter la culpabilité aussi sur Juliette. Alors ça, c'est un petit twist que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est elle qui tue l'ami. Enfin, alors, il y a une espèce de bataille, c'est un peu un gros chaos sur scène, un chaos dansé bien sûr, mais quand même un chaos. Et il se trouve que par erreur ou par malchance, en tout cas, le poignard tombe et elle tue quelqu'un. De même, à la fin, elle prend quand même son destin en main. On n'est plus dans la Juliette qui attend et qui subit son Roméo qui lui tue pour elle. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu plus musclé, en tout cas sur la figure féminine qui est. Il faut dire que sa Juliette est noire aussi, et que le Roméo est blanc, donc il y a toute cette histoire de diversité qui est prise en compte. On sent qu'il a voulu vraiment faire un Roméo et Juliette d'aujourd'hui, moderne, vraiment contemporain, qui parle, et c'est vrai que ça fonctionne. Et cette Juliette un peu plus en charge de son destin, ça, c'est peut-être la partie de l'adaptation qui marche le mieux, selon moi.
Avec aussi un couple de jeunes garçons qui est raconté aussi dans cette danse et dans ce ballet, et notamment ce Thibald, ce gardien, surveillant, policier, on ne sait pas très bien, chacun choisira, qui est d'ailleurs obsédé par Juliette. On est à la limite du harcèlement vis-à-vis de la jeune fille.
Oui, la première scène est quasiment une scène de viol.
Voilà. voilà, et totalement homophobe, puisque évidemment il prend en grippe ce couple de jeunes garçons. Vous y avez vu, vous aussi, une transposition, c'est aussi son truc à lui, à ce chorégraphe britannique, dans un monde moderne, aujourd'hui, à notre époque, et dans un univers proche des spectateurs, en tout cas, Marie-Josée Sirac.
Je sais pas si c'est... Si, l'adolescence est éternelle, c'est-à-dire que les sentiments, la violence des sentiments, quand on a 15-16 ans, elle est toujours aussi réelle, et donc je comprends que tout ce public très jeune s'identifie à Roméo et Juliette. Là où je suis d'accord, en plus, c'est par rapport à Juliette. À un moment donné, je me suis dit, mais elle est plus proche de Carmen que de la Maria de West Side Story. C'était très étonnant. Je me suis dit, mais il y a quelque chose de très étrange, ça, quand puisque c'est elle qui tue. Donc, ce côté où elle prend en charge, effectivement, cette histoire, c'est assez bien vu. Non, moi, ce que je regrette, c'est que c'est une succession de tableaux qui illustrent son propos. Et c'est là où ça pêche, parce que les émotion, elle n'apparaît jamais. Et moi, je suis restée sur ma faim parce que j'avais envie d'être bouleversée, j'avais envie de pleurer. On a tous envie de pleurer devant la mort de Roméo et Juliette. Et non. Hélas.
Mais comment on explique ça? Peut-être parce qu'il n'y a pas de moment de ralenti, de calme. Il y a quelque chose de très généreux dans la danse, d'une grande fougue, en fait.
C'est très généreux. Et il y a quand même cette scène où on aurait pu être ému de ce très long baiser entre Roméo et Juliette. Le chorégraphe dit que c'est un des plus longs baisers de la danse contemporaine. C'est vrai qu'il est très long et très beau. Et c'est très bien chorégraphié, mais c'est un peu lisse.
Oui, les bouches ne se séparent pas pendant toute la danse sur toute la scène.
Donc voilà, c'est très voluptueux. Ça aussi, c'est très généreux. Et ça marche bien. Mais encore une fois, on est plus dans une efficacité où c'est peut-être trop propre ou trop lisse pour que ça atteigne l'émotion. Moi, je me suis dit qu'en fait, le problème, c'est qu'il avait appelé ça Roméo et Juliette. Finalement.
Roméo plus Juliette.
Tout à fait. Mais finalement, la référence à Shakespeare, moi, ça m'a sorti. C'est-à-dire que j'avais ma référence à Shakespeare dans ma tête avec tous les Roméo et Juliette qu'on a pu voir ou ce qu'on se fait de cette histoire-là. Et comme ça ne correspondait pas à la trame dramaturgique et que celle qui proposait ne m'a pas convaincue, je suis restée à distance finalement. Il aurait appelé ça, je sais pas, Gilles et Gisèle. Peut-être que j'aurais suivi cette histoire d'amour avec beaucoup plus de candeur, de naïveté et en tout cas moins d'attente.
C'est presque mensonger la référence à Roméo et Juliette.
On reconnaît un peu, mais moi je trouve que ça, en tout cas, ça pêche. Enfin, ça appuie, ça donne un poids qui n'est pas nécessaire. Il aurait pu complètement se lâcher ça et écrire son propre texte et ça aurait été très bien.
Mais je crois que peut-être, pardon.
Allez-y, Marie.
Non, je crois que peut-être le spectacle souffre du fantôme de West Side Story. C'est-à-dire que on a tous envie de voir ces gens-là parler. Et c'est vrai que cette façon de travailler la comédie musicale mutique, c'est très troublant et ça provoque un hiatus avec le spectateur qui ne nous quitte pas. Mais en revanche, je trouve que il y a tout un travail autour du son, outre la partition de Prokofiev, que je trouve intéressante sur l'univers carcéral, avec des bruits de métallique en permanence, des cris dans le lointain.
Dès d'ailleurs l'installation.
Dès que le public arrive, et d'ailleurs le public s'en fiche complètement au départ, c'est très étrange qu'ils n'entendent pas. Moi,
m'a perturbé aussi.
Moi, ça m'a perturbé. Voilà. Alors que je trouve que ce travail-là est assez remarquable, il le tient jusqu'au bout. Ça, c'est très bien vu.
Est-ce que sur ces autres, alors peut-être là, je pose une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre, mais sur ces autres adaptations de grands ballets classiques, pour les rendre effectivement accessibles à un public populaire, c'est sa démarche, et il ne s'en cache pas, le Lac des Cygnes, la Belle au Bois dormant, Casse-Noisette, Cendrillon, est-ce que de la même manière, il s'éloigne véritablement de l'œuvre originale? Est-ce que vous savez, Marie?
Oui, il y a toujours une adaptation chez lui, il y a toujours cette volonté de ramener ses œuvres du répertoire dans un présent. Après, le Lac des Cygnes, qui est un peu son chef-d'œuvre, c'est une pièce qui date de 95, qui va peut-être être prise à Paris d'ailleurs, voilà. Moi, j'ai hâte de la voir en vrai, je n'ai vu que des extraits de cette pièce-là, mais je crois que cette adaptation marchait mieux, ou en tout cas, elle a vraiment frappé. Ça fait partie de l'histoire de la danse contemporaine, cette pièce-là. Donc, après, c'est toute une histoire de dosage d'adaptation. Il y a des adaptations qui marchent, et celle-ci, selon moi, marche vraiment moins bien.
Oui, après, il est libre. Moi, je trouve qu'il a raison de prendre des libertés avec le texte, de s'en éloigner. D'ailleurs, chez Shakespeare, je crois qu'il y a 5 actes. Là, il n'y en a que 3, avec des noms complètement aléatoires. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me manque, c'est qui nous emporte jusqu'au bout de cette tentative de revisiter cette tragédie magnifique.
Roméo plus Juliette de Mathieu Bonde, c'est à découvrir jusqu'au 28 mars au Théâtre du Châtelet.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent de Love Me de Marina Otero et Martin Flores Cardenas. C'est jusqu'au 19 mars au Théâtre de la Ville. Yes, así. Aprendemos ser felices así. La vida del obrero es así.
Si l'extrait musical du spectacle que vous avez entendu semble à première écoute plutôt joyeux, la bande-annonce vidéo, elle, dégage une autre ambiance, en réalité celle du spectacle. La vidéo montre des images de l'artiste performeuse assise sur une chaise, dehors, en plein jour, devant un immeuble, sur un terrain vague, avec des carcasses de voitures en fond ou au bord d'une route. Le texte qui accompagne ces images nous dit même précisément où la route 195 dans le Chiapas au Mexique. On entend d'ailleurs en fond sonore les bruits des voitures qui roulent. Et le texte va plus loin. Il nous dit aussi que ces images ne font pas partie du spectacle, car s'oppose la lumière du jour à l'obscurité dont parle la pièce, l'obscurité et la violence que renferme le corps de la performeuse. La pièce s'appelle Love Me et avant, il y a eu Fuck Me, car oui, baise-moi d'abord, après on parle d'amour, nous dit Marina Otero. Elle a écrit la pièce avec un ami, elle s'en est dit plus capable d'écrire, elle lui a donc fait appel à lui. Avant elle dansait, aujourd'hui elle ne pense plus qu'à fuir, cette pièce est un adieu, conclut-elle. Marie-Josée Sirac, avez-vous été sensible à ce propos et à cette performance très sombre ?
Oui, plutôt. Quelle étrange créature, à la fois provocante, provocatrice, et petite fille qui se raconte longuement avant de danser. Le spectacle est construit en deux parties. Un premier long monologue intérieur, écrit, qui apparaît et qu'on lit, puisqu'elle ne le lit pas. Elle est mutique, elle reste assise sur un méchant tabouret, recroquevillée sur elle-même. Et comme si elle avait du mal à assumer ses propos, d'ailleurs. Il y a une espèce de dédoublement permanent qui est troublant. C'est-à-dire, c'est elle qui écrit, qui ne parle pas, et en même temps, parfois, d'un petit geste, elle commente ce qui est écrit, donc c'est assez troublant. Et puis, ça dure très longtemps, peut-être trop. Alors, ça raconte sa vie amoureuse, ses déboires, ses excès de violence, où l'on comprend que sa violence vient de souvenirs d'enfance eux-mêmes très violents, avec un père qui brutalisait sa mère. Et puis, au milieu de cette histoire de violence, elle raconte son propre exil, c'est-à-dire comment fuir sa violence. Et du coup, elle quitte l'Argentine pour venir en Espagne, donc elle met des milliers de kilomètres. En même temps, l'Argentine la rattrape sans cesse. Et ça, on le voit dans la deuxième partie, où là, elle se met à danser. Mais c'est une danse primitive, brutale, laide, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à faire du beau. Son corps hoquette, se cherche, elle va mettre un masque de catcheur. Et ce qui est pas anodin en Amérique du Sud, le catch étant un sport extrêmement populaire. Et surtout, elle se met à danser sur deux chansons de Pity Alvarez, qui est un chanteur de rock argentin très populaire.
C'est la chanson qu'on a entendue au tout début, avant les bruits de voiture.
Chanson, avant les deux voitures. Très belle chanson, très violente, et lui-même ayant eu un parcours ultra violent, puisqu'il a tué son dealer, je crois. Et c'est subjugant. Moi, je trouve ça... on est agacé au départ, irrité, puis finalement, on bascule et on la suit, quoi. On la suit jusqu'au bout de cette tentative de refuser de danser. C'est ça qui est étonnant.
Marie Sorbier, vous aviez vu Fuck Me, Love Me vous a surpris ?
Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette performance. Alors, surpris, oui, parce que ça n'a rien à voir. Dans la forme, alors, le propos, elle le met comme si c'était un diptyque ou une trilogie.
Un projet global.
Voilà, un projet global. Mais en fait, formellement, ça n'a rien à voir parce qu'elle n'est pas la même femme qu'au moment de Fuck Me. Elle a eu un accident entre les deux, elle a eu une opération du dos. Et donc, Love Me part de cette impossibilité à danser, ou en tout cas d'être bloquée dans son corps et de plus pouvoir danser. Et elle a préparé cette pièce pendant le Covid. Donc, elle était aussi dans un enfermement qu'on a tous vécu. Donc c'était ces deux points de départ-là. Moi, j'ai été en effet un peu subjuguée par cette performance. Je m'attendais pas du tout à ça. Et ce qui m'a... je l'ai vu hier soir. Et pour vous dire, depuis, ça continue vraiment à tourner dans ma tête. C'est-à-dire que je trouve que c'est un objet critique et un objet de réflexion absolument génial. C'est-à-dire qu'au départ, on peut avoir l'impression... Moi, mes voisins, par exemple, au Théâtre de la Ville, avaient l'impression qu'elles se foutaient clairement d'eux. Il y avait comme si on méprisait le public. Parce que quand même, on l'a dit, la performance dure 50 minutes. La partie en silence total. Il n'y a pas un bruit, pas un mouvement. Elle est sur son tabouret, en effet. Alors, elle peut faire un petit mouvement de pied, elle tourne la tête. Elle ne regarde pas le public. Elle regarde au sol. Donc, on pourrait, en effet, croire qu'elle est complètement dissociée, qu'elle s'en fout, en fait. Et donc, on est tous dans ce silence pendant au moins 40 minutes.
C'est l'irritation d'en parler, Marie-Josée.
Voilà, c'est quand même les gros trois quarts du spectacle. Il y avait une qualité de silence hier, c'était fou. C'est-à-dire que les gens étaient quand même s'ils se sentaient un petit peu bousculés, voire méprisés, on est avec elle. Parce que ce qui se passe sur l'écran, c'est vraiment, on rentre dans sa tête. Le texte dit « je », on comprend bien que c'est d'elle dont il s'agit. « Fuck me » et « love me » ont en commun une espèce de sens de l'autofiction, parce qu'elle parle d'elle. Il y a aussi de la fiction, mais c'est quand même elle le centre de la matière. Et alors, c'est produit un effet que je trouvais assez génial. D'ailleurs, elle le mentionne à un moment dans son texte, c'est-à-dire que il y a un effet miroir qui se produit parfois au théâtre, mais là qui se produit de façon hyper évidente. C'est-à-dire qu'on se retrouve exactement comme elle. On est assis, un peu avachi, dans le silence total. Et on fait face à cette performeuse qui est assise dans le silence, et qui regarde un peu dans le loin, un peu par terre. Et je trouve que du coup, cet effet miroir physique devient un effet miroir avec le texte et sa violence à elle, ça devient presque notre propre violence. Moi, j'ai ressenti énormément de choses alors qu'il n'y a rien. C'est un spectacle d'une sobriété terrible. Il y a un tabouret, elle et une projection.
Et un grand écran où évidemment défilent ses pensées. La violence, vous l'avez dit, Marie Sorbier, c'est peut-être le propos principal, Marie-Josée Sirac, de cette performance, avec l'interrogation effectivement sur le corps. Venir voir une performeuse danseuse ne pas bouger sur un fauteuil.
Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'elle interroge, c'est pourquoi danser ? Pourquoi danser et comment se battre contre ses propres ses démons intérieurs ? Des démons intérieurs qui ravagent chaque individu, mais aussi un pays. C'est-à-dire qu'elle vient d'un pays où la violence est omniprésente. Jusque sur le terrain politique, c'est-à-dire des colonels au président de la République actuelle, la violence est permanente. Et elle, je trouve qu'elle a une espèce d'honnêteté et de fragilité de dire la danse est impuissante à répondre à ça. Et en même temps, elle l'assume et donc elle nous dit « donc je vais danser mal, je vais danser la rage, je vais danser de manière anarchique, de manière désordonnée parce que les mots ne suffisent pas, les corps ne suffisent pas, mais en même temps, je ne veux pas rester... pas silencieuse, mais je ne veux pas ne rien faire. D'ailleurs, la chanson, la deuxième chanson qu'on entend, lui dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'à quand on va tenir, jusqu'à quand on va. Et c'est ça ce qu'elle raconte. Il y a Maggie Marin pose cette question-là de la danse aujourd'hui. On ne peut plus danser. Ou on danse pour dire quoi, pour raconter quoi, pour se faire plaisir, pour faire joli. Et elle a dit non. On danse l'état du monde, et l'état du monde, il n'est pas brillant. Moi, je l'entends comme ça, en tout cas.
C'est un manifeste, Marie Sorbier ?
C'est un manifeste, mais elle a cette espèce d'intelligence et d'élégance des gens un peu désespérés, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'humour. Enfin, moi, j'ai trouvé que dans cette violence-là, il y a une dérision, elle a une façon de présenter les choses qui sont quand même tragiques, quand elle raconte les épisodes du père-enfant, qu'elle voit tabasser sa mère, elle est dans sa chambre petite, elle vit ce truc-là. Après, elle, ses relations avec les hommes sont éminemment violente, des deux côtés d'ailleurs, elle parle aussi de sa violence à elle, qu'elle n'arrive pas à contenir, et que la danse a été à un moment donné son exutoire, et on le voit bien dans les 10 dernières minutes du spectacle où elle se met à danser. Il n'y a pas de virtuosité, hein. C'est pas de la danse technique, on n'est pas dans le ballet, on est vraiment dans l'exutoire de rage. Il y a et ce masque de catch qu'elle a piqué à un de ses anciens amoureux, parce que dès qu'elle quitte quelqu'un, elle vole quelque chose de chez lui. Et donc elle lui vole, c'était un metteur en scène, elle lui vole son masque de catch et elle danse nue avec ce masque-là. Mais il y a une rage, mais même dans son corps, parce qu'elle se déshabille à un moment donné.
ses bras, son torse, elle a quelque chose d'extrêmement sec, musclé, mais en même temps fragile. C'est un corps très étrange qui se présente avec une nudité qui est bien au-delà de la nudité physique. Elle se met vraiment à nu, elle balance, il y a un truc de confession un peu désespéré. Et en même temps, moi j'ai trouvé ça quand même très élégant. C'est très étrange parce que, en effet, elle cherche pas à te faire du joli. Hein. On n'est ni dans le joli, ni dans le beau. Tout ça, c'est complètement éliminé de l'histoire. Mais elle transmet, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement puissant dans une fragilité absolue. Donc c'est très émouvant, en fait.
Vous avez dit qu'il y avait une partie, évidemment, autobiographique. Sa mère était danseuse, elle assiste à des cours de danse depuis sa tendre enfance, et c'est sa façon de s'exprimer, de dialoguer. Et c'est là où c'est intéressant, parce que si dans le spectacle précédent, elle parlait beaucoup, ici, pas un mot, on est véritablement plongé dans ses pensées. Et il y a, donc vous l'avez dit aussi, cette idée du corps, d'interroger le corps. Qu'est-ce qu'on le fait? Est-ce que je quitte mon corps? Comment l'utiliser alors que je ne peux plus parce que j'ai eu une opération? Est-ce que le corps est une œuvre en soi, Marie-Josée Sirac? Vous avez vu, vous aussi, Marina Otero dit son corps est possédé par un esprit maléfique. Alors, est-ce que vous l'avez vu, cet esprit maléfique?
Je ne sais pas si c'est un esprit maléfique. En tout cas, son corps est possédé dans... Il parle pour elle. Il est plus fort qu'elle. Il tremble pour elle. Il enrage pour elle. Et c'est très beau. C'est très émouvant parce que il y a en même temps sa fragilité qui est là tout le temps, tout le temps. Cette mise en danger, puisqu'elle se dévoile, c'est très intime ce qu'elle nous raconte. Elle nous le fait partager avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs et de subtilité parce que effectivement il y a ce que vous disiez Marie sur l'aspect familial qui est sordide, mais quand elle raconte séparation avec ses ex, c'est quand même très drôle parce que voilà, c'est spectaculaire et pourtant elle ne les mime pas, hein. elle les raconte juste, en fait le texte est écrit et on imagine les scènes et chaque fois elle rapporte comme un trophée. Quand elle se sépare, c'est un trophée. De l'éclairagiste, elle lui pique sa veste, hein. Enfin bon, et chaque fois et le masque, c'est pareil, c'est aussi un ex, donc c'est assez drôle et il y a un côté en même temps facétieux et où elle nous dit, bon, tout ça ça reste de la danse, quoi.
Marie,
vous savez, on parle souvent de la communauté éphémère du théâtre, cette fameuse communion, pourquoi on va voir un spectacle ensemble dans une salle et pas derrière un écran, c'est pour vivre ensemble les choses. Eh ben, elle parvient avec, encore une fois, vraiment rien, c'est-à-dire sans son, sans mouvement quasiment et un tabouret en bois, à créer une communion dans le public. Alors soit on rejette, soit on est avec elle, mais il y a quelque chose vraiment de physique qui se passe entre les spectateurs dans cette salle.
On a parlé d'émotions beaucoup pour ce spectacle, pour conclure, quelles émotions précisément? Colère aussi, on la ressent, cette colère?
Colère et empathie, hein, oui, quand même. Empathie. On est avec elle, quoi. On a un peu envie de la prendre dans ses bras.
Oui, complètement. On a envie de la consoler, de lui dire on est avec toi.
Ben voilà, le titre est donc tout trouvé. Love Me de Marina Otero et Martine Flores Cardenas. C'est jusqu'au 19 mars au Théâtre de la Ville à Paris. Merci beaucoup, Marie Sorbier. On vous retrouve tous les soirs à 19h50 pour votre chronique Le Grand Tour sur France Culture. Marie-Josée Sirac, on vous lit dans l'Humanité. Toutes les références sont sur le site de France Culture à la page de l'émission où vous retrouvez aussi ce débat critique et tous les autres en réécoute, tout comme sur l'appli Radio France.